Vous écoutez RTL. RTL Soir.
On refait le monde. Marc-Olivier Fogiel.
19h18 sur RTL, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la journaliste Christine Ockrent. Bonsoir Christine.
Bonsoir.
Avec le psychanalyste Gérard Miller. Bonsoir docteur.
Bonsoir.
L'éditorialiste Figaro, Yvan Youfol. Bonsoir Yvan. Et Alain Duhamel nous a rejoint. Rebonsoir Alain.
Rebonsoir.
Big Brother is watching you. Le projet de loi donc sur le renseignement pour mieux lutter contre le terrorisme sera dévoilé jeudi, mais on en connaît déjà les grandes lignes publiées ce matin dans le Figaro. Le texte autorise entre autres l'espionnage de vos appels, vos SMS, vos emails et vos ordinateurs à distance, le tout sans passer forcément par la case justice. Alors, la question est simple, faut-il accepter de voir notre liberté réduite pour notre sécurité ? On en débat donc sur les réseaux sociaux. D'abord, Benoît Galeret de LCI, bonsoir.
Bonsoir, et eh bien c'est déjà un grand nom, même si on ne sait pas tout. En première ligne, les spécialistes de la quadrature du net qui parlent de projets de loi désastreux. L'association prévient même, si le Parlement acceptait de suivre l'exécutif, les conditions d'un exercice correct de la démocratie ne seraient plus réunies. Mise à l'écart de la justice, vous le disiez, durée de conservation des données récoltées qui semble abusive, voire illégale, et puis l'obligation pour les fournisseurs d'accès de surveiller le trafic de leurs abonnés. Alex s'étonne à propos de cette dernière, car Bernard Cazeneuve lui-même disait le 18 septembre à l'Assemblée, c'est une technique très onéreuse qui peut perturber le trafic, très intrusive, elle peut présenter des risques importants, nous ne souhaitons donc pas l'utiliser. Eh bien si, c'est encore pire que prévu, ça va encore plus loin que la NSA, soupire Adrienne. L'arsenal qui fait du citoyen un suspect, titre le Nouvel Obs, Big Brother est en marche, s'écrit Cravate, les fascistes en ont rêvé, le gouvernement Valls l'a fait, tweet même Jérémy, on tend tout simplement à légaliser la fin de la vie privée, résume Neil. Yann s'inquiète en effet de ces méthodes utilisées par les dictateurs. On a déjà connu les dérives des écoutes sous Mitterrand, se souvient-il. Il y a tout de même un député UMP, Yannick Moreau, pour applaudir, une occasion à ne pas manquer pour corriger notre politique pénale et nous réarmer face aux menaces du terrorisme islamiste. Si le prochain gouvernement, par exemple, d'extrême droite, utilisait ses moyens contre ses opposants, qu'adviendrait-il de nos libertés et de la démocratie, demande alors Christian. Dans le doute, Roland conclut que le strict respect des libertés fondamentales doit l'emporter sur la préoccupation sécuritaire, sinon les terroristes auront gagné, glisse Pierre.
Pour vous, Christine Ockrent, c'est une loi liberticide ?
Sûrement pas, parce que si j'ai bien compris, elle ne fait que légaliser des pratiques qui existaient déjà, mais qui étaient illégales.
Ouais.
Donc je trouve ça assez cocasse de s'indigner contre, en fait, une manière d'organiser des méthodes qui, apparemment, étaient pratiquées abondamment.
Mais elle aurait pu les dénoncer, ces méthodes.
Puis je me permets juste de m'interrompre, ce qui est mal,
moins,
ne devient
cher
pas
docteur,
bien
que j'aille au bout de ma phrase. Donc, premier point, ça légalise des pratiques qui, semble-t-il, étaient courantes. Mmh. Deuxième point, on ne peut pas déclarer qu'il y a une guerre contre le terrorisme, et il y a eu, en tout cas, au mois de janvier, un véritable consensus dans le pays pour soutenir ces propos du Premier ministre, et s'effaroucher de pratiques qui consistent à préserver nos démocraties. Donc, je trouve que globalement, et à condition que, parce qu'évidemment, on a encore créé une nouvelle agence qui est censée vérifier que les limites ne sont pas débordées trop vite, mais je trouve que, grosso modo, c'est bien.
Je vais essayer de parler comme Alain Duhamel, c'est-à-dire avec modération, pondération et intelligence. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Le premier argument...
Non, mais enfin, le modèle est excellent.
Le premier argument, chère Madame Ockrent, n'est quand même pas convaincant. Ça n'est pas parce que quelque chose est mal qu'en le légalisant, vous le transformez en quelque chose de bien. Vous légitimez éventuellement...
Non, mais le péril a changé de nature.
Non, c'est le premier argument... aurait dit M. Duhamel, n'était pas un bon argument.
Non, mais on va entendre M. Duhamel.
Oui, c'est vrai, je ne parle pas en son nom du tout. Le second argument est plus convaincant. C'est-à-dire, c'est vrai, je ne suis pas de ceux qui créent immédiatement au péril liberticide, à l'imitation des Américains. Moi, je n'ai jamais été radicalement opposé, par exemple, aux caméras dans la rue. Je suis simplement pour que ce soit encadré. J'entends quand même ce que disent les avocats. Ils disent que, dans un certain nombre de moments, on pourrait quand même passer par la case juge. Bon, je ne sais pas si c'est possible techniquement, si effectivement on a le temps à chaque fois de demander à un juge si ça se passe. Je préférerais. Mais maintenant, je suis d'accord avec vous, Christine. Je considère que ce qui s'est passé et ce qui se passe depuis quelques années est tellement grave, nous fait changer de statut, que je ne suis pas priori pour ne pas faire confiance au gouvernement dans ces mesures. Vous voyez que je suis là-dessus assez modéré. Ça ne m'indigne pas.
Vous êtes d'accord avec Christine Lagarde? Oui, je suis sur un désaccord, mais en fait, c'était une
je ne suis pas figure absolument, de style. Je ne suis, oui, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a des moments où le retard dans l'exécution d'un certain nombre de mesures peut être dangereux
et on
pour
l'a
la sécurité.
Précisément donc, voilà, lors des attentats aujourd'hui.
Alors, ça, c'était le Coca Light pour le Coca donc réel, vous. Alors, à la Diane, c'était.
Moi, je dis donc avec évidemment énormément de modération et de compétences, mais j'ai été suffoqué par ce qu'on a entendu des internautes. Parce que visiblement, ils commentaient avec beaucoup d'élan un texte qu'ils n'avaient pas regardé. Parce que
ça arrive souvent sur Internet.
Oui, mais enfin, quand c'est devant moi, ça me choque plus que quand je ne le sais pas. ce qui est quand même incroyable, c'est que s'il y a une évolution, en l'occurrence, ça n'est pas une évolution par rapport aux pratiques, c'est une évolution par rapport au contrôle. Et là, il y a en réalité un contrôle supplémentaire qui n'existait pas, qui est organisé. Alors on dira, il n'est pas judiciaire. Bah, quiconque a un peu l'expérience de la justice sait que sa grande qualité, c'est la sage lenteur avec laquelle elle procède, en règle générale. Et quand il s'agit de problèmes de terrorisme, et dont malheureusement on sait très bien qu'ils peuvent se produire à n'importe quelle seconde avec des conséquences énormes, aller vite est essentiel. Alors je suis d'accord, y compris avec les Duhamel adjoints, pour reconnaître que mieux c'est contrôlé, plus efficacement c'est contrôlé, et plus on est content sur le principe. Moi, je partage tout à fait ce point de vue. Mais la priorité, c'est d'avoir les moyens matériels et le type de prise de décision qui permettent d'aller aussi vite que nécessaire quand il y a réellement une situation de crise.
Et vous, Yvan Youfol, ce qu'on appelle le Patriot Act, des mesures d'exception, on n'en est pas là, mais
on n'en est pas là.
On en est loin.
Mais vous seriez prêt à ce qu'on franchisse ce pas-là ?
Non, moi je pense pas. Je pense qu'on peut effectivement qu'une démocratie peut rester dans ses principes qui sont d'ailleurs de ne pas toucher aux libertés fondamentales et singulièrement à la liberté d'expression. D'ailleurs, à ce propos-là, je trouve que moi j'aurais des critiques à émettre, mais c'est pas le sujet sur la censure des sites internet qui sont présumés colportés des discours
hier. Donc il y en a 5 qui ont déjà été fermés.
Moi je trouve que c'est une manière pour au contraire de les identifier, mais bon, passons. Naturellement, les internautes dans l'excès de leur formulation ont raison de dire qu'on aimerait bien se passer bien sûr de ces mesures là, mais ça a été dit, je le répète, nous sommes dans une situation exceptionnelle, une situation de guerre qui nécessite d'avoir des renseignements au plus vite. D'ailleurs, ça pose le problème de la défiance vis-à-vis de la justice qui effectivement est comprise comme étant une entrave, en tout cas à l'efficacité et même à la sécurité intérieure, puisque la justice est mise sur le côté. Donc, naturellement, il y a là un problème qui mérite débat, qui ne me choque pas pour autant, sachant parce que d'abord parce qu'il y a des instances de régulation, et puis surtout, malheureusement, il me semble que c'est une mesure supplémentaire dans un environnement de moins en moins sécurisé, qui fait que très régulièrement, on accepte, contraint et forcé, ces mesures, non pas liberticides, mais ces mesures qui peuvent être gênantes naturellement pour notre liberté, à savoir les vidéosurveillances, les portiques dans les aéroports, les fouilles, etc. Et donc, cela nous rappelle simplement que nous sommes dans un monde devenu totalement incertain, dans un monde violent, et qu'il faut en accepter malheureusement les conséquences. Mais encore une fois, je ne cautionne pas ce que j'ai entendu chez les internautes. On ne donne pas un aval pour avoir des renseignements, on ne donne pas un aval à la torture, on ne donne pas un aval à des actes répréhensibles. On permet simplement aux forces de police d'écouter plus simplement, de faire des filatures plus simples, etc. Donc ça me paraît être une très bonne chose.
Allez, vous êtes donc à peu près tous d'accord sur ce sujet-là. On va voir sur le
quelle
prochain.
Quelle déception.
Non,
dans
pas
la
du
voix
tout. Pas du tout.
Vous ne pensiez pas que l'Union nationale était complètement oubliée.
On est déjà à la mi-mars. Hein. Du porc et rien d'autre dans les cantines de Chalon-sur-Saône. Il y aura peut-être plus de débats dans un instant.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauchiel.
Et à 19h30, on refait le monde avec Alain Duhamel, Yvan Youfol, Gérard Miller et Christine Ockrent. Les enfants de Chalon-sur-Saône n'auront donc plus de menu de substitution lorsqu'il y aura du porc dans les cantines de la ville. C'est ce qu'annonçait le maire UMP hier au nom de la laïcité. Pour la ministre de l'Éducation que vous avez entendu tout à l'heure sur RTL, il faut faire preuve de discernement. Cette décision prend les enfants en otage. Alors la suppression de ces menus, vous l'approuvez ou vous la critiquez sur les réseaux sociaux pour commencer ?
C'est très particulier. partager. Bravo à Chalon-sur-Saône, s'écrit Red. Quand on n'aime pas, on mange pas ou on se force, c'est pareil pour tout le monde. Il est temps que tout le monde comprenne que la laïcité et la neutralité doivent être absolument respectées pour le vivre ensemble, confirme Shirley. Mais c'est scandaleux et ça sert tout sauf le vivre ensemble, rétorque Viviane, puisque les enfants juifs et musulmans ne pourront plus manger à la cantine. Ramayad aussi tweetait ce matin, la laïcité, ce n'est pas obliger les gens à manger du porc. Les écoles catholiques que j'ai fréquentées proposaient toujours des places en porc. Quel lâche ces anti-islam qui s'attaquent aux enfants, vermine, grince Dio, s'en prendre aux gosses avec le porc en toile de fond, c'est ignoble. Lâche et crétin, confirme Nicolas. Du coup, j'espère que le fameux repas de Noël de cette cantine, on le supprime aussi, parce que c'est pas très laïque non plus, demande Alizé, qui trouve que c'est de l'instrumentalisation de la laïcité et que c'est bien triste. Faudrait que les politiques comprennent un jour que le porc n'est pas la kryptonite des musulmans. En mettre partout ne nous fera pas fuir, même avec des tapis de gym en mortadelle, ricane Karim. Ils n'imposent pas encore de le manger, donc finalement, on s'en sort bien, ironise Saïna pour finir.
Le principe de laïcité, Gérard Miller, donc invoqué par le maire de Chalon-sur-Saône.
Je trouve que c'est une honte absolue, cette histoire-là. Quelle volonté d'antagoniser les choses sur des sujets enfin, qui pourraient parfaitement se faire avec douceur, de même qu'on fête Noël avec joie quand on est athée, non chrétien. Enfin, je veux dire, quel besoin, où était la nécessité d'aller chercher les gosses dont les parents ne souhaitent pas pour des raisons religieuses que je ne pratique pas, que je ne partage pas. Je trouve ça, mais honteux. C'est pas seulement que c'est effectivement une volonté de jeter enfin de l'huile sur le feu alors qu'on n'en a pas besoin. Enfin, je trouve ça tellement minable. Je trouve qu'il y a des vrais sujets. Par exemple, ça serait impensable qu'on modifie quoi que ce soit à l'enseignement, quoi que ce soit à un cours, au nom des exigences religieuses des uns et des autres, que tout d'un coup on ne puisse plus parler de la façon dont l'homme est arrivé sur Terre sous prétexte qu'un certain nombre de croyances font penser que c'est Dieu qui l'a créé, cet homme sur Terre. Donc ça, c'est impensable. Moi, j'ai toujours dit, je suis professeur à l'université, je sais que ce n'est pas tout à fait le sujet, ne me pose aucun problème de faire cours devant des filles voilées. Je préfère qu'elles soient là plutôt qu'en dans des écoles coraniques. Seulement, on ne me fera pas changer d'un millimètre ce que j'ai envie de dire. Si je veux parler du tabou de la virginité et du voile comme une oppression des femmes, je le ferai. C'est très différent de mener le combat pour la laïcité sur le contenu des programmes, de dire effectivement, par exemple, aux enfants, vous devez aller en gymnastique, vous devez, si on vous le demande, vous occuper des petites grenouilles pour les disséquer, même si c'est contraire. Ça, on ne peut pas changer un iota à l'enseignement. Mais qu'est-ce qu'on a besoin d'aller, excusez-moi du terme, faire chier les gosses sur la question de la nourriture simplement pour se dire vraiment anti-islamiste? Je trouve ça minable, honteux, et ça jette dans notre société qui doit vivre de façon unie, ça jette inutilement de l'huile sur le feu.
C'est votre opinion, Alain Diemel? Vous trouvez que le maire de Chalon-sur-Saône stigmatise?
Je l'aurais dit évidemment avec beaucoup plus de modération et d'équilibre. Mais oui, c'est mon idée. C'est également mon idée. Alors, j'ajoute d'une part que quand je vois un élu relativement important, parce que c'est pas une petite ville, quand je vois un élu qui prend une initiative de ce genre juste à la fin d'une période électorale, a priori, je considère qu'il a une idée derrière la tête qui n'est pas forcément liée à des questions de laïcité, d'hygiène ou de composition des menus. D'autre part, je trouve lamentable effectivement que ce soit sur des enfants que ce genre de choses s'applique. Je trouve ça complètement ridicule. Et en plus, la vérité est que dans des écoles de tous les types, il y a des menus différents. Et qui est-ce que ça gêne ? Je veux dire que le fait que, si ça amuse les protestants de faire jeûne le vendredi saint, ça gêne ni les catholiques, ni les juifs, ni les musulmans. Je veux dire que chacun fasse ce qu'il a envie de faire et que les sociétés fonctionnent sans créer des problèmes artificiels.
Ça s'adapte aussi.
Bien sûr, s'adapte. Bon, ça, on ne peut pas dire que la France, dans ce domaine, ne se soit pas adaptée depuis quelques années. Je trouve qu'elle s'adapte même plutôt plus vite que la moyenne des sociétés, quelquefois en désordre et quelquefois dans la bonne direction.
Yvan Ruffol, vous condamnez également le maire de Chalon-sur-Saône pour son initiative zélée?
Non, je le laisse juger du contexte. D'abord, ce qu'il fait n'est pas illégal et ce qu'il fait, il a le droit de le faire. Donc, cette décision, il l'assume. Alors, je suis très sensible, en effet, au fait que, bien sûr, une cantine pourrait mettre un menu de substitution. On ne voit pas très bien ce qu'il y a de compliqué à cela. Mais je pense qu'il y a aussi un contexte local que je ne connais pas du tout, en l'occurrence, mais qui peut-être nécessitait de répondre aussi à un nouveau militantisme du communautarisme. Et c'est là que la décision du maire peut se justifier, dans ce sens où il faut toujours éviter le risque d'engrenage. C'est-à-dire que, bien sûr, ça ne semble anodin que de vouloir réclamer pour les uns pas de porc ou du porc pour les autres. Et naturellement, il n'est pas question dans ces cas-là de pénaliser les enfants. Mais si cette exigence est formulée d'une manière telle qu'on laisse comprendre qu'avec cette exigence-là, on en demandera une autre peut-être une suppression des mixités, ou alors. Des sorties des mères, voilées, des voiles à l'université, des prières dans la rue, etc. Enfin, si ces exigences sont instrumentalisées par ce que l'on voit apparaître maintenant dans le domaine public, c'est-à-dire cet islam radical qui cherche à tout prix une visibilité, qui cherche à tout prix à imposer ses règles dans le domaine public, et donc pourquoi pas en commençant par le plus facile, par la cantine, je pense qu'à un moment donné, les positions dites d'apaisement de la République, qui sont très honorables en soi, donne à penser que cette République est prête par compromis, par commodité, par recherche.
Ah là, ça faisait 31 ans que
par recherche.
Ça.
Oui, c'est ça. Oui, mais je vous explique que le contexte a changé aujourd'hui, que les exigences de l'islam radical sont telles aujourd'hui qu'il faut que la République apprenne à résister et apprenne à dire non.
Jours des départementales.
Mais non, mais je ne suis pas innocent. Et donc, je ne veux pas juger ce maire sur un contexte que je ne connais pas. Et je pense que la République doit apprendre de plus en plus à dire non aux exigences de l'islam radical. Et ce non peut commencer effectivement par les menus, même si ça peut choquer sur les menus. Mais sinon, vous allez avoir encore des exigences supplémentaires. Et effectivement, vous aurez une République qui aura capitulé. Moi, je ne veux pas d'une République qui capitule devant les communautarismes et devant l'islam radical.
Moi, je ne veux pas non plus d'une République qui capitule devant les communautarismes, de même que je trouvais très bien que la République résiste à l'Église catholique à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Simplement, ce que je ne voudrais pas, parce que je ressens bien que même en dehors de la question de la campagne, c'est une tentation aujourd'hui, qu'on mette au fond, en permanence, la société sur le pied de guerre contre elle-même. Je crois que l'idée selon laquelle il faudrait en permanence se sentir investi d'une tâche de surveillance générale et dire qu'a priori il faut dans n'importe quelle situation, à n'importe quel endroit, etc., s'apprêter à contrecarrer quelque chose, je crains que ça ne crée antagonismes très puissants redoutables.
Nous avons à répondre à une offensive qui a été abordée par le premier sujet, et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, la presse a déjà rendu les armes concernant les caricatures, où maintenant la presse satirique a renoncé à publier les caricatures de Mahomet, et donc a commencé
à... Non, mais c'est le même engrenage.
À partir du moment où vous commencez à reculer sur un problème, vous reculez sur l'autre. Nous reculons sur la liberté d'expression avec les caricatures, nous allons reculer sur les exigences comportementales, sur les menus différenciés.
Yvan, la question est de savoir si, dans une société qui essayent de trouver des équilibres, qui sont obligés d'évoluer, évidemment, bien sûr, et qui sont obligés, non pas d'accepter de faire disparaître des valeurs ou des mœurs traditionnelles, mais de s'adapter aussi. La question est de savoir si on doit être en permanence sur le pied de guerre, et en permanence aussi essayer de créer un climat de méfiance générale.
Et surtout à l'école.
Ce n'est pas à la République de s'adapter, c'est à l'islam de s'adapter à la République.
Oui, enfin, le problème, là c'est l'initiative.
Une seconde. Christine Ockrent, on va reprendre le débat dans 30 secondes après.
Je trouve que l'initiative de ce maire est scandaleuse. Je trouve que instaurer un tel climat à l'école, c'est pire que tout. Et encore une fois, indépendamment du calcul politique, je ne connais pas spécifiquement la situation à Chalon-sur-Saône par rapport aux consultations électorales à venir, mais c'est de la provocation pure. C'est de la provocation pure, et ça entretient, et je suis tout à fait d'accord avec Alain et Gérard, ça entretient inutilement les ferments d'une guerre civile permanente, qui est précisément ce qui asphyxie et angoisse cette société.
Tout à fait excessif.
On va en dire un mot dans un instant, Yvan Ruffol.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde
dans RTL Soir.
19h42 sur RTL, on refait le monde avec Alain Duhamel, Yvan Ruffol, Gérard Miller et Christine Ockrent. Et juste avant la publicité, Christine Ockrent, vous dénonciez une forme de pompier pyromane, en fait, dans ce maire de Chalon-sur-Saône.
Non, même pas pompier, carrément pyromane tout seul.
C'est pyromane tout seul.
Franchement, c'est de l'huile de porc qu'il met sur le. Encore une fois, sur un conflit qu'on inflige à des enfants, je trouve ça vraiment scandaleux.
Oui, l'argument le plus fort que vous avez, de mon point de vue, que vous développez, c'est effectivement que ce sont les enfants qui sont victimes. Et là, en effet, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Et d'ailleurs, le maire prévoit de prévenir les familles, d'au moins à l'avance, pour qu'il y ait des dispositions qui soient prises Et en effet, il est choquant de ce point de vue-là que ce soit les enfants qui trinquent. Bien, là-dessus, je ne veux pas discuter, car vous avez raison. Mais vous oubliez une chose aujourd'hui, c'est que la République est testée très régulièrement sur ses capacités de résistance aux attaques vis-à-vis de la laïcité par les religions et singulièrement par cet islam radical. C'est lui qui pose problème. Ce ne sont pas les juifs. Il faut arrêter de se mentir. C'est l'islam radical.
Est-ce que c'est l'islam radical que de vouloir ne pas manger du porc?
Mais justement, c'est pour ça que je vous dis.
C'est ça que je ne comprends pas très bien, en fait.
C'est pour ça que j'essaie de vous faire faire comprendre depuis tout à l'heure que cela dépend du contexte, cela dépend de la manière dont ces exigences...
Indépendamment du contexte.
Je vais me répéter pour la cinquième fois. Cela pose un problème en fonction du contexte. Ça dépend si c'est l'islam, ces islamistes-là qui font de ces problèmes de cantine, une exigence, c'est une manière de le dire, si vous voulez, ou de le demander. Et ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que la République étant maintenant testée presque tous les jours sur ses capacités de résistance, il faut attendre aujourd'hui de la République une certaine brutalité. En effet, et là, ce sont des décisions brutales qui vont se multiplier parce que la République va de plus en plus être amenée à résister à ce prosélytisme qui entend subvertir les règles de la laïcité. Voilà mon point de vue. Mais
sans avoir fait Rioufol première langue, je comprends quand même votre embarras, je le vois, et oui, cher monsieur Rioufol, il faut comprendre que
on est sur un cas limite,
ligne de front. C'est-à-dire que quand, par exemple, on sait que dans notre société, on parle d'une société précise, il y a par exemple beaucoup de juifs, beaucoup de musulmans même, qui ne sont pas pratiquants. Mais par exemple, sur la question du porc, moi je vois beaucoup de copains qui ne pratiquent rien, mais qui disent, sur le porc, j'en mange pas. Donc on sait que c'est un sujet qui est sensible.
Peut-être qu'ils n'aiment pas ça.
Oui, ou qu'ils n'aiment pas ça. Mais ça nous laisse tranquilles, je vous assure que, autant je vous suis.
Voilà, mais ça nous laisse tranquilles.
Mais
voilà,
mais ça nous laisse tranquille parce que la société a besoin de tranquillité.
C'est très exactement ce que je dénonce.
Yvan Rioufol, la société a besoin de tranquillité, elle a besoin de vivre ensemble et il faut définir de bonnes lignes de front. On ne recule pas sur un certain nombre de sujets, c'est pas pour ça qu'on considère que tout est ligne de front, que tout est sujet d'empoignade. Moi je trouvais par exemple grotesque qu'on s'empoigne sur la question des crèches. Moi qui ne suis pas chrétien, ça ne me choque pas du tout qu'on fasse une crèche par-ci, qu'on parle du petit Jésus par-là. C'est sympathique, c'est agréable. Quant à la cantine, je vous assure que jusqu'à présent ça ne posait de problème à personne. Vous pouvez pas dire que les islamistes en font un sujet de débat, puisque c'était acquis depuis 30 ans.
Je ne dis pas ça, je dis qu'encore une fois, parce que le contexte peut permettre ces genres de choses, et qu'en tout cas, votre argument de dire qu'il faut acheter la tranquillité en multipliant les accommodements raisonnables, ce sont des renoncements qui se profilent. Voilà.
Alain Duhamel, pour terminer. Oui, très, très, très brièvement. Il ne faut pas transformer, je trouve, la vigilance, qui est légitime, en suspicion permanente. Et quant à l'idée sur laquelle il n'y a jamais de compromis trouvé pour rendre la vie plus facile, il me semble que les expériences familiales que chacun a pu traverser dans sa vie montrent que de temps en temps, il faut quand même un petit peu de compromis pour que les choses se passent bien.
Vous n'avez pas de compromis avec une idéologie.
Je parle naturellement uniquement. Non, mais mes exemples portaient uniquement sur la nourriture, bien sûr. Oui. Familiale, bien sûr.
Allez, à suivre en latin. Débat se dit disputatio, c'est ça, quelqu'un ?
Oui.
Ah bah, très bien. Et justement, le risque de la disparition du latin et du grec au collège, on en débat dans un instant.
Marc-Olivier Fogiel.
On refait le monde dans RTL Soir.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fogiel.
19h49 sur RTL. On refait le monde ce soir avec Christine Ockrent, Yvan Rioufol, Gérard Miller et Alain Duhamel. La fin des cours de latin ou de grec au collège. La réforme, en tout cas, de Najat Vallaud-Belkacem prévoit des cours de langue ancienne proposés dans le cadre, vous savez, des nouveaux enseignements pratiques interdisciplinaires et non plus en tant qu'option indépendante. Ce qui fait craindre aux professeurs l'abandon de leur matière. Alors, la disparition possible des langues mortes au collège vous fait-elle perdre votre latin sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Il y a comme en latin, on trouve beaucoup de déclinaisons. Au tempora, au mores, la réforme du collège va enterrer le grec et le latin, se désole François. C'est grave pour vous, rigole Bérénice. Perso, j'ai fait du latin au collège, j'ai rien retenu, c'est pas grave, hein, calmez-vous. Mais oui, l'école doit enseigner des choses utiles à nos enfants, insiste Jean-Michel. Moi, le latin m'a bien aidé pour être bonne en français, rétorque Agnès. Moi aussi, sacré nivellement par le.
Moi aussi, pardon.
C'est du grec.
C'est Anthony, j'ai fourché, j'étais perdu, c'est tout.
Il aurait fallu faire du latin.
J'en effet, mais je vais peut-être pas le dire à ma prof. On continue. Sacré nivellement par le bas. Tiens, bah, bingo. Bravo, grince la poux. Notre langue et notre droit descendent directement des Romains. Et puis, ça rapporte des points aux élèves, confirme Cédric. C'est vrai, mais d'un autre côté, s'il y a un autre enseignement à la place, éviter de faire des versions pendant 3 ans de suite et étudier un peu plus l'histoire, moi, j'approuve, tempère Julien. Michel soupire ce débat sur le latin naïveté ou mauvaise foi. L'aspect utilitaire de l'option, c'est d'être dans des classes favorisées. Ah, merci, confirme Mylène. L'objectif officieux du latin, c'est de caser les meilleurs élèves dans les mêmes classes, c'est certain. C'est vrai que, concrètement, conclut Karim, le latin au collège, ça sert juste à savoir écrire curriculum vitae pour tes rendez-vous Pôle emploi à la fin de tes études.
Alors, Alain Duhamel, ça vous a servi à quelque chose, le latin ?
Oui, absolument. Hein ? Oui, oui, tout à fait. Oui, ça, si, si.
Je vous pose la question.
D'abord, quand j'entends quand j'entends dire non, mais quand j'entends opposer l'histoire et le latin aussi, on apprend de l'histoire quand même. Ensuite, en ce qui concerne la construction des phrases, etc., ça, c'était évidemment une aide. Alors, plusieurs internautes disaient quelque chose, je ne le reconnais pas facilement, mais disaient quelque chose d'intelligent, qui était que il est vrai que le latin et a fortiori le grec sont aussi un système pour rassembler ceux qui sont présumés les meilleurs ou qui sortent d'un milieu qui est plus intéressé que d'autres par ce genre de discipline dans les mêmes classes. Ça, c'est une réalité sociologique. Mais intellectuellement, je trouve, oui, que le latin était tout à fait formateur. Je dis pas que j'étais toujours à l'aise avec n'importe quel auteur. Je me rappelle avoir souffert avec Tacite, par exemple. Mais quand on traduisait du Cicéron, par exemple, on apprenait aussi ce qui a été la base ensuite de l'éloquence française. Et donc, compte tenu de nos métiers aujourd'hui, c'était utile.
Jean Miller.
Oui, moi j'ai adoré faire du latin, donc je ne vais pas revenir sur ce point-là. Mais surtout, je sais bien que ce n'est pas le lieu, mais je vais quand même le faire. Il y a un petit livre que je vous conseille à tous, dont le titre vous donne ma position. Un petit livre qui est publié aux éditions Les Belles Lettres. Et vraiment, lisez-le. Pas obligé de me croire, ça s'appelle « De l'utilité de l'inutile ». Et ce livre est remarquable, un petit livre, enfin il y a deux auteurs
en français
qui expliquent qu'on ne peut pas vivre seulement dans une société utilitariste, ça n'est pas possible. Et de progressivement faire disparaître tout ce qu'on suppose ne servir à rien, on fait disparaître parfois ce qu'il y a de plus beau dans la vie, qui est justement pas l'utilitaire. J'évoquais tout à l'heure le fait que je suis prof à l'université, vous ne savez pas la pression qu'on subit pour être en relation avec les entreprises, pour évidemment favoriser l'emploi avec une sorte de connexion immédiate entre ce qu'on enseigne et le métier que les étudiants vont avoir. C'est pas ça la fonction de l'université. Je crois effectivement à la culture générale, je crois effectivement à des choses dont on aurait tort de penser qu'elles ne servent à rien, elles sont utiles justement parce qu'elles sont inutiles immédiatement. Moi, je crois à l'utilité à moyen et à long terme. On n'est pas du tout obligé de faire du latin, mais soyons sensibles au fait qu'à force de parler d'utilitarisme dans cette société, on fait disparaître tout ce qui en fait le charme.
Mais ce n'est pas un luxe aujourd'hui, Christine Ockrent, le latin ?
Un luxe ?
Bah ouais, un luxe. Est-ce que...
Pourquoi un luxe ? Je trouve qu'à force de triturer ces programmes scolaires, on y comprend absolument plus rien. Et je trouve, comme Alain Duhamel, moi j'ai adoré le grec, donc là je vais défendre le grec ancien, pour structurer la pensée, pour aider à comprendre l'histoire de nos sociétés, je trouve que c'est un enseignement utile. Qu'il soit en option, certes, qu'il permette, comme le disent les internautes aussi, de grappiller des points au bac, tant mieux, mais qu'on offre au moins aux jeunes qui ont ce désir-là, qui ont ce goût-là, ce goût de l'histoire, ce goût des racines qui sont communes aux Européens que nous sommes.
Et de l'éloquence.
Et de l'éloquence, sûrement. d'Hélène Est, Carthago. Je trouve ça navrant. Voilà. Alors, est-ce que c'est une question d'économie ? Est-ce que c'est quoi ? C'est une espèce de modernisation, mais au nom de quoi ? Enfin, je comprends. Vraiment, je trouve que cette réforme est vraiment mal foutue, on ne comprend rien. Et alors, il y a une chose qui m'a sidérée, mais je ne suis pas parvenue à en avoir confirmation, ce serait la suppression des classes dites européennes, où on permettait aux élèves d'apprendre très tôt et en profondeur une seconde langue. Ce qui a toujours été le drame de l'enseignement français, c'est le retard dans les langues vivantes.
Là, en même temps, la deuxième langue sera donc enseignée dès la cinquième dans cette réforme, et plus la quatrième.
Non, mais on a supprimé vraiment les classes européennes.
Je ne sais pas, mais en tout cas, on va étudier donc apparemment une
seconde langue dès la cinquième. Mais que répond Internet sur cette question?
Benoît va chercher, Yvan Rioufol, en attendant, sur le latin, sur le grec, mais aussi peut-être sur l'interdisciplinarité, puisque c'est aussi ça la réforme.
Et ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il y aura en fait des grandes thématiques. Des grandes thématiques, le développement durable par exemple, elles sont comme ça, il y a des grandes thématiques, et en fait les professeurs viendront enseigner en même temps, et on comprendra un problème de maths dans une problématique et plus en tant que telle.
Mais le latin fait partie du développement durable.
Ben peut-être.
Ah ben oui, c'est même au cœur du développement durable.
Peut-être, mais donc voilà.
Cette interconnexion est proposée par la ministre de l'Éducation parce qu'elle ne veut pas que les élèves s'ennuient. Donc c'est un grand jeu qui est proposé, dans le fond, à ces élèves.
Si ça leur permet d'apprendre.
Mais non, mais c'est absolument dérisoire. Enfin, le vrai problème aujourd'hui, c'est le déracinement qui est engagé au cœur de l'éducation nationale. C'est-à-dire que l'éducation nationale n'apprend plus à transmettre, naturellement pas nos racines gréco-latines, mais elle n'attend plus à transmettre la culture. J'ai été d'ailleurs effaré de voir que François Hollande, très récemment, s'est félicité avec un grand sourire qu'il y aura bientôt un bac numérique, c'est-à-dire qu'il avalise une société sans mémoire, amnésique, alors que précisément, c'est la mémoire qu'il faut faire jouer, à travers naturellement le latin et le grec. D'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup de mépris à considérer que les jeunes des cités seraient inaptes à accéder à cette culture latine ou grecque au prétexte qu'ils viennent d'une culture différente. Je pense qu'il y a là un véritable effort à faire. Et puis surtout, à travers la littérature, à travers les textes, à travers l'histoire, à travers les héros, à travers tout cela, essayer de s'enraciner à nouveau, si je puis dire, car je crois que c'est le vrai drame qui pèse aujourd'hui sur notre société et très singulièrement sur l'éducation nationale qui ne remplit plus sa mission.
Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à Alain Duhamel, Yvan Rioufol, Gérard Miller et Christine Ockrem. Dans un instant, le flash de 20h et ensuite sur RTL, 20h-23h, votre soirée Ligue des Champions avec, vous le savez, à 20h45, Monaco-Arsenal au Stade Louis II.